Le transhumanisme, qui est un projet, on va le voir, résolument technoscientifique, succède ou succéderait à un ancien humanisme ou un humanisme traditionnel, ou même, et probablement on le verra, à plusieurs formes d'humanisme qui se sont succédées. Mais bon, disons, l'homme est la mesure de toute chose. Hein. C'était, disons, à partir du projet de la Renaissance, comme ça que je pense on a conçu cette nouvelle humanité. Et qui repose ce nouvel humanisme sur un effacement de distinctions traditionnelles assez fondamentales et qui ont structuré, on pourrait dire, notre humanité depuis la Renaissance, depuis le début de la modernité. Alors ces distinctions, c'est la distinction homme-machine, par exemple. Hein, alors on pourrait convoquer Descartes, les automates, etc. Il y a toute une réflexion philosophique traditionnelle sur la question de la machine, les animaux machines. Mais là, bon, on a un projet, vous voyez, qui transcende, j'allais dire, toutes ces distinctions, puisqu'il est question de fusionner littéralement l'homme et la machine dans la figure du cyborg. Hein, le cyborg, cyber, kuber en grec, c'est gouverner, donc un individu gouverné. Bon, comme un ordinateur, vous voyez, un ensemble de flux qu'on pourrait gérer avec des algorithmes, avec un langage mathématique, etc. La science-fiction regorge évidemment de toute forme d'hybridation homme-machine. Il y avait une très belle expo de Enki Bilal aussi, il y a 3 ans, à Paris. C'était Mécanimanimal, hein, sur les figures hybrides chez Bilal. Vous connaissez peut-être cet auteur de bande dessinée un peu catastrophiste, qui plaît beaucoup d'ailleurs à Paul Virilio, avec lequel il a écrit, et on retrouve dans la fiction, voilà, cette réflexion, enfin, au sens miroir, hein, il nous renvoie à des formes de cyborg, d'hybride, qui seraient peut-être l'humain de demain. Voilà, au train où vont les choses, c'est-à-dire la production des xénogreffes, des prothèses bioniques, etc. On abolit ensuite, dans le transhumanisme, la frontière entre l'organique et l'inorganique. Alors ça rejoint la première question, hein, mais ça veut dire qu'on peut établir des continuités entre, par exemple, un neurone et un processeur ou un disque dur. Hein. Et on va connecter de l'influx nerveux électrique. Hein. Vous savez, l'influx nerveux est un influx électrique. Le corps est régulé par deux flux, hein, la chimie et l'électricité. Et l'influx électrique, qui sert aussi d'ailleurs dans le cerveau, peut être connecté. Donc on y travaille. Hein. Ce que je vous dis là, c'est que c'est en train de se faire et de s'approfondir, cette science-là, cette convergence, on va y venir, pour abolir la frontière entre l'organique et l'inorganique. On parle aussi de faire l'ordinateur biologique. On va y revenir. Hein. Je vais parler de tout ça parce que c'est des projets sérieux. Sérieux, c'est-à-dire qu'on y injecte des milliards de dollars. À partir du moment où il y a du capital, c'est sérieux. Ce qui n'intéresse pas le marché, n'aboutit pas, ou l'État, hein, mais là, en l'occurrence, ça intéresse les deux. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'argent, donc évidemment, des capitaux, ça veut dire de l'efficience. Hein, ça veut dire que ce domaine-là avance très, très vite dans la recherche. Et puis la dernière frontière, c'est la frontière entre le naturel et l'artificiel. Cette question, à l'aune des deux premières, si vous voulez, si on arrive à franchir les barrières, comme on franchit, vous voyez, les barrières d'espèces, etc., eh bien, la question du naturel, alors le naturel, non, ça, pour envoyer comme ça, étymologiquement au sauvage, enfin, l'homme originel, hein, l'homme matriciel, l'homme biologique presque, hein, pré-civilisationnel, hein, comme ça qu'on appelait les sauvages autrefois, le naturel, mais ça veut dire aussi que la définition de l'humain, maintenant, inclurait indifféremment, voilà, indifféremment, du biologique, hein, donc du naturel, et du technique, donc de l'artificiel. Voilà. Mais ces questions, évidemment, sont infiniment complexes, hein, parce que définir la nature en dehors de l'artifice, depuis le néolithique, c'est pas possible. Enfin, c'est assez complexe. Mais enfin, je schématise, hein, volontairement pour avancer néanmoins. Nous serions aussi en voie de dépassement de différentes discontinuités. Alors, pour aller très vite, pour reprendre l'histoire humaine, les Grecs avaient connecté l'homme au cosmos, et peut-être d'autres avant, avec l'invention de la philosophie. Darwin nous a connectés à l'évolution, hein, des espèces, au biologique. Freud nous avait connectés avec notre inconscient. Et c'est pas rien. hein, surtout Darwin et Freud. Et puis, la quatrième discontinuité, c'est celle de la machine. Hein, encore une fois, l'homme-sujet, la machine-objet, voilà, on a raisonné comme ça pendant très longtemps dans cette comment dire, posture objectivante, hein, moderne, très cartésienne, et bon, le projet du transhumanisme, qui n'est que le reflet d'un imaginaire de notre époque. Hein, je vais parler des transhumanistes sectaires, mais vous avez compris avec Jacques Testard que c'est un ensemble de pratiques, de phénomènes émergents qui se réalisent un peu partout dans la plus grande banalité. Et comme le disait très bien Testard, hein, le simple fait de posséder un pseudo-téléphone qui est en fait un ordinateur, un calculateur, une prothèse communicationnelle dans sa poche, transforme notre humanité et fait de nous déjà des transhumains. Un début de quelque chose. Donc l'homme, c'est même la conception de l'homme qui va changer, hein, c'est-à-dire qu'on va dire l'homme est une machine parmi d'autres. L'homme est une machine parmi d'autres, le cerveau est une machine computationnelle, une machine chimique, électrochimique. Et partant de là, vous voyez, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir ou limiter ou s'en servir à d'autres fins, le déconnecter du corps humain, etc., etc. Voilà. Et on entre après dans le mouvement de la science, hein, la spécialisation. Là. Alors, le transhumanisme, donc, un, succède à l'humanisme, deux, désigne l'intrication croissante de l'homme et de la machine, qui est balbutiante. Hein. C'est vrai, quand on regarde autour de nous, peut-être il y a des gens qui ont des pacemakers, vous savez ce que c'est, hein, c'est des petites piles qui réactivent le cœur quand il faiblit un petit peu. Voilà. Mais en fait, on a encore, bon, on peut vous poser quoi, des stents dans les artères pour, vous voyez, faciliter le passage du sang, mais si on regarde quand même dans le monde quotidien autour de nous, il y a quand même très peu de gens qui ont des prothèses bioniques, voilà. Hein, on en est. Pour ma part, j'ai été opéré il y a longtemps au laser de ma myopie, il y a pas mal d'années, ce qui faisait de moi potentiellement un homme pas augmenté, mais remis à niveau sans lunettes. Enfin, vous voyez, là, je me rattrapant maintenant, il m'en faut pour voir de près, donc finalement, on n'échappe pas à son destin. Mais néanmoins, voilà, il y a très peu de gens vraiment modifiés. Qu'est-ce qu'on voit? Des tatouages, des piercings, toutes sortes de choses que votre génération connaît bien. Hein. Mais voilà, ça s'arrête là. Hein. Alors, l'idée de l'homme, on va dire augmenté, hein, enhanced en anglais, vous avez trouvé ce terme tout le temps, l'homme augmenté, elle est née aux États-Unis, hein, je vous l'ai dit, dans les années 60. Alors, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes, de plusieurs imaginaires, horizons d'attente, on pourrait dire, de plusieurs horizons. D'un côté, bon, on pourrait dire après l'échec du surhomme nazi et du surhomme soviétique, pour le dire comme ça, parce qu'il y avait ces deux figures de l'homme nouveau, hein, qui était apparu dans les années 30, et dans les fascismes en Europe. Hein, les fascismes ont tous produit, d'une certaine manière, la figure de l'homme nouveau. Mais bon, voilà, on peut dire que cette tentative, avec, je pense au nazisme, avec les Lebensborn, la tentative de l'institution de la théorie raciale, enfin tout ce délire biologique, c'est-à-dire de faire de la tâche du donné biologique une tâche politique, hein, tout ça a d'une certaine manière échoué, même si, comme l'a rappelé Testard, les fantômes de l'eugénisme ne sont jamais très loin, hein, surtout quand ils sont un peu blanchis. Mais néanmoins, aux États-Unis, la volonté, c'était, pour une part, de fabriquer un travailleur dans un appareil productif en pleine expansion, hein, dans l'après-guerre. Eh bien, la machine de guerre a continué à fonctionner, ce que montre bien Deleuze. Les usines de chars se sont retransformées en usines de moissonneuses-batteuses et de tracteurs, mais le productivisme était là, et on avait besoin de militaires, de travailleurs capables de résister à des conditions extrêmes. Hein. Qui s'intéresse aujourd'hui beaucoup à l'homme augmenté? Ben, la NASA, par exemple. Hein, parce que pour aller au-delà de la Lune, déjà, c'était pas évident d'y aller, surtout avec les moyens du bord à l'époque, mais maintenant, il s'agit d'aller plus loin, de coloniser, bon, pareil, grand délire probablement, bluff technologique probablement, mais en même temps, comme on met des milliards là-dedans, je prends ça au sérieux. Hein. Il va falloir des hommes, ou des humains, pardonnez-moi, parce que la question se pose de savoir s'il faut des équipages mixtes ou pas, ou pour aller des mois, des années même en excursion dans l'espace. Il faudra des gens modifiés, capables de résister à toutes sortes de choses, d'ailleurs à la pression psychique, au froid, à la température, au rayonnement, Et de plus en plus aujourd'hui, alors l'armée américaine, évidemment, est très intéressée aussi, elle investit, la DARPA investit beaucoup, beaucoup dans cette recherche de transformation de l'humain. Et l'autre dimension, bon, celle-là, elle est très pratique et pragmatique, hein, c'est-à-dire on a besoin, une figure du travailleur, imaginez pour l'industrie, un travailleur qui résisterait comme les nouveaux marins là au sommeil, vous voyez, qui seraient entraînés comme un peu le surhomme de Jarry, quoi. Hein, il serait plus productif. Donc pour le capitalisme, de toute façon, c'est intéressant. Hein, ça tombe sous le sens. Un homme technique, c'est un homme, un humain, donc dont les capacités, la performance, l'efficience ont été augmentées, puisque le langage technique est précisément celui-ci. Et le post-humain, c'est aussi, et c'est important, avoir dépassé les limites imposées par le processus d'évolution. Il y a là-dedans la continuation, je crois, de tout ce mouvement qui part du XVIIIe siècle et qui va mener à la dépaysannisation des sociétés occidentales, la haine du paysan, la haine de l'organique, hein, de celui qui va toucher les excréments des animaux, cette espèce voilà, et de phobie de la nature, au fond, hein, de volonté, de cette passion de l'artifice, comme disait, je crois que c'est Castoriadis, hein, passion de l'artifice. L'homme moderne s'est caractérisé par cette passion de l'artifice au détriment d'une peur de la nature, disons, hein, d'une peur de la nature. Alors, il y a de très bons textes sociologiques, celui d'Yves Dupont et Pierre Bitoun, le sacrifice des paysans rappelle très très bien toute cette histoire. Donc, avoir dépassé les limites imposées par le processus d'évolution, c'est un projet, on va y venir dans un deuxième temps, ou dans un troisième temps, littéralement démiurgique. Bon, je vous ai raconté Darwin, s'inspirant de Lamarck, retrace l'histoire, hein, biologique de l'humanité. L'homme descend du singe, ça effrayait le chrétien, hein, mais c'est un peu ça, voilà. J'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs un très beau film 2001, Odyssée de l'espace, hein, Space Odyssey de Stanley Kubrick, hein, si vous ne l'avez vu, c'est vraiment en phase avec tout ce que je vous raconte là. La séance d'ouverture du film, hein, c'est des proto-humains, des hominidés, grands singes qui voilà, sont devant un objet cosmique un peu mystérieux, mais c'est jusqu'à la question de l'autonomisation de l'ordinateur. Enfin, je trouve que ce film raconte à lui seul exactement tout ce que j'essaie de vous dire. Et échapper à l'évolution, c'est le dernier pas, vous voyez, qui nous permettrait de nous émanciper du déterminisme de la nature. Hein, on pourrait dire toute la modernité a été d'une certaine manière arc-bouté à cette question de cette volonté d'échapper au déterminisme de la nature par la technique en voilà, fabriquant toutes sortes d'artefacts du chauffage, de la climatisation, de l'agriculture industrielle, voilà, tout ce mouvement de la modernité, et surtout au XXe siècle, nous a toujours poussé plus loin vers l'artificialisation, hein, des conditions de vie. Regardez dans quel monde on vit. La nature, elle est parquée, naturée, on pourrait dire, c'est du jardin, c'est des espaces, des ronds-points, voilà, sinon tout le reste, notre vie est entièrement, comment dire, inscrite dans des dispositifs techniques. Voilà, y compris domicile, etc. Mais on n'a affaire qu'à des artefacts. On n'est en contact qu'avec du macadam, enfin, tout ce que nous touchons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous respirons même, puisque la nature même de la nature a changé et est fabriquée par l'homme. Alors, le transhumanisme, c'est en attendant d'avoir complètement, de s'être affranchi de cette dynamique de l'évolution, donc échapper au règne du vivant, au biologique, hein, là, je prends l'horizon extrême du transhumanisme. Le trans, bah, c'est en attendant, comme disait Godot, qu'est-ce qu'on fait? Hein, bah, voilà, on fait avec la technique et on essaie de transformer, de pousser toujours plus vite la transformation de l'humain en recourant, on va le voir, à un certain nombre de technologies, pas n'importe lesquelles et pas n'importe comment. Donc, c'est ce que je vais reprendre. Donc l'humanité, pour un transhumaniste au sens militant, hein, vous allez le voir tout à l'heure, c'est cette idée que l'humanité est sous sa forme actuelle encore dans sa phase primitive, hein, c'est-à-dire qu'on est plus proche des grands singes dont je parlais tout à l'heure que de la phase éthérée, subliminale, hein, dont rêve le transhumanisme, où il n'y aurait plus de corps, il n'y aurait plus de mort, etc. On serait pure conscience. C'est ce que disent les psychanalystes, hein, c'est que la technique, elle est là maintenant pour réaliser les fantasmes. Tant que c'était enfermé dans des registres imaginaires, etc., alors, chez les Grecs, hein, etc., les mythes, voilà, mais là, aujourd'hui, voilà, on peut réaliser quasiment toutes les mythologies qui ont été pensées par les anciens, et ça, c'est quand on confond le réel et la représentation, en général, ça conduit à des catastrophes. Alors, le moyen de cette grande transformation, si vous voulez, il porte un nom, j'ai cité le nom tout à l'heure, c'est la convergence. Et ça, je crois que dans le séminaire, on n'a pas assez insisté là-dessus. La convergence entre des champs disciplinaires qui, à l'époque moderne, étaient traités de manière séparée, de manière, comment dire, en silo, comme on dit aujourd'hui. Hein, la biologie s'est développée de son côté, la physique au XXe siècle, la biologie va sûrement se développer d'ailleurs plus maintenant au XXIe, la chimie au XIXe, pour des raisons liées à l'exportation des matières premières, des colonies, etc. Enfin voilà, chaque époque avait ses besoins. Mais aujourd'hui, il est question de faire converger trois champs disciplinaires, la biologie, l'informatique et les sciences cognitives, hein, la biologie, l'informatique et les sciences cognitives, dans un champ, un paradigme nouveau qui s'appelle les nanotechnologies. Alors, on a aujourd'hui des pratiques rappelées par Testard, entre autres. Il existe le diagnostic préimplantatoire, des pratiques de psychotropes et de dopage. Hein, on en parlait dans le couloir tout à l'heure avec le cannabis médicinal, mais voilà, une chirurgie esthétique et prothétique, et quelques interfaces homme-machine, mais pour l'instant, vous avez vu qu'on ne se connecte pas directement à la machine, on est plutôt dans des artefacts de langage, de système, bon, qui essaient de favoriser, disons, l'efficacité, hein, du dialogue. On appelle ça le dialogue homme-machine, c'est intéressant d'ailleurs. Je ne sais pas si on est vraiment dans un langage. Il y a un langage d'un côté qui est le langage informatique, hein, binaire, et puis le nôtre qui est plein de double sens, de choses trappes, de profondeur, de mensonge. Voilà, c'est deux choses totalement différentes, bien évidemment. Alors, la convergence, on va la développer tranquillement. Je voulais revenir quand même sur la définition donnée au transhumanisme par Max Moore. Max Moore, c'est l'auteur de la fameuse loi de Moore, c'est un philosophe américain. En 2003, il écrivait ceci. La loi de Moore, vous connaissez, hein, c'est tous les 18 mois, la quantité de processeurs sur une puce double. Hein, donc il y a une exponentielle, hein, ça crée une courbe exponentielle, littéralement. Et quand je vous ai parlé de la conquête spatiale tout à l'heure, le LEM, hein, le module lunaire, avait la puissance de calcul d'une montre à quartz, hein, d'il y a 20 ans, hein, pas une montre avec GPS, hein, la première montre, vous voyez, c'était. Et la salle de la NASA, qui était à l'époque la plus grande salle d'ordinateur, enfin de contrôle du monde, elle était bien, bien inférieure en tout, hein, à vos capacités de calcul d'un n'importe quel ordinateur portable que vous possédez, vous voyez. Hein, donc c'est ça, l'exponentielle, vous voyez, et aujourd'hui, on est. Dans les ordinateurs de l'armée ou pour la météorologie, avec des capacités de calcul de milliards d'opérations par seconde, enfin, ça dépasse complètement l'entendement, quoi. Et c'est exponentiel, ça continue. Alors, en 2003, il écrit ceci, hein, donc, le transhumanisme, c'est la philosophie de la vie entièrement consacrée à la poursuite et à l'accélération, ce mot est important, de l'évolution de la vie intelligente. De l'évolution de la vie intelligente au-delà de l'humain et de ses limites actuelles, je vais la relire, hein, rassurez-vous, grâce à la science et à des technologies, guidées par des principes et des valeurs favorables à la vie. Je reprends, donc c'est une philosophie au sens anglo-saxon, hein, vous voyez, c'est plutôt une sorte de mode de pensée, hein, et non pas de philosophie au sens de la tradition. Bon. Philosophie de la vie entièrement consacrée à la poursuite et à l'accélération de l'évolution de la vie intelligente. Ah, c'est important, hein, parce que j'ai parlé de la vie biologique tout à l'heure, de l'évolution, on pourrait dire darwinienne, mais vous le savez, la vie tend vers la complexité. Hein. C'est-à-dire qu'on a, voilà, et dans tous les domaines d'ailleurs, on pense, y compris la structure du cosmos, c'est étonnant, hein, mais il y a une tendance vers la complexification et le désordre en même temps. Donc. Et donc l'évolution de la vie intelligente ici, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter les, bêtement, j'allais dire, les capacités physiques du corps et remplacer les muscles par des prothèses et tout. L'enjeu véritable, c'est l'esprit, c'est la conscience et l'objet de prédilection, c'est le cerveau. C'est le neurone qui intéresse le transhumanisme. Donc l'évolution, poursuivre l'accélération, vous voyez, c'est pas sortir. On est dans une vision de la technique qui ne se pose pas en rupture avec l'évolution biologique, c'est au contraire de la prolonger, de la reprendre et de la prolonger. Par tous les moyens, donc de s'inscrire dans la continuité et non pas dans la rupture. C'est là que c'est très fort. Hein, parce que ça pose une question par rapport à l'humanisme dont il est question. C'est pas C'est pas un homme nouveau qui se poserait en rupture. Au contraire, le discours, hein, je parle du discours transhumaniste ici, c'est de à la fois s'inscrire dans la continuité et de proposer une sorte d'accélération. La métaphore est très souvent prise, comme on allume le deuxième étage d'une fusée. On allume les boosters, et nous, c'est le premier étage, là. La vieille humanité biologique, depuis 500 000 ans, hop, allez, obsolète, comme dirait Günther Anders. Hein. Voilà. Donc, au-delà de l'humain, sous-entendu, de l'humain tel qu'il est défini, c'est-à-dire dans un couple conscience-corps, et de ses limites actuelles, hein, ça c'est l'horreur pour le transhumanisme, comme pour la technologie, hein, d'une manière générale, il faut toujours repousser, repousser, repousser les limites, hein, les limites de ce qui résiste, hein, les limites du réel. Grâce à la science, et à des technologies, j'aime beaucoup la nuance, parce qu'effectivement, c'est à la fois la science comme idéologie au sens habermasien et les technologies. On dit souvent la technologie, mais c'est les technologies, les techniques, hein. Et le tout donc guidé par des principes et des valeurs favorables à la vie. Favorables à la vie, il faut entendre biopolitique, au sens de Michel Foucault. Voilà, favorable à la vie, c'est ça que ça veut dire, hein, c'est qui ne préempte pas, positive au sens anglo-saxon, quoi, hein, voilà, une action positive, c'est voilà tout ce qui permet d'accroître, alors le capital, le fric, le vivant, etc. C'est toujours cette idée, vous voyez, de tout ce qui va vers la production, la prolifération, c'est positif, et qui s'oppose à tout ce qui, bon, disons, limite, préempte, etc. Enfin, on retrouve encore une fois le problème de la limite. Bon, je reviens rapidement sur l'existence des deux organisations transhumanistes internationales. Je crois que Hélène Janin en avait fait, il avait fait référence. C'est l'Extropy Institute. Alors, c'est marrant, hein, l'extropie, c'est évidemment là, construit contre l'entropie. Et vous connaissez, je pense, un peu déjà les lois de l'entropie, non? Les lois de la thermodynamique, hein. Enfin, il y a deux principes, hein. Le premier qui consiste à que les organisations, disons, tendent vers le désordre, hein. On va du groupe, enfin, grosso modo, hein, de l'ordre vers le désordre, et deux, la quantité d'énergie que nécessite cette transformation tend à diminuer, c'est-à-dire que tout système, évidemment, tend vers une sorte de fin, hein, d'auto. Voilà. Et l'extropie, c'est de dire, ben voilà, ces lois qui, d'une certaine manière, limitent. Alors, l'écologie, aujourd'hui, s'inspire beaucoup des lois de l'entropie, avec la bioéconomie de Georg Eskourengen des années 60. C'est ce qui a inspiré le Club de Rome, hein, le rapport sur, disons, l'effondrement probable des civilisations dans les années 2030-2040. N'est-ce pas le rapport du MIT, hein. C'était cette idée, hein, voilà, qu'il y avait une sorte de loi de l'entropie et qu'on ne pouvait pas, pour le dire rapidement, penser un développement infini sur un système fini, hein, sans amener. Alors, ça a fonctionné parce qu'il y avait les colonies, hein, l'Occident s'est développé uniquement par les hectares fantômes drainés par les colonies, les matières premières, la main-d'œuvre, etc. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher des nodules sur Mars ou de l'eau ailleurs. Vous voyez, tout ça est lié, hein, d'ailleurs, dans l'imaginaire. Hein, l'idée qu'il va falloir importer sur Terre des matières, parce qu'on ne pourra pas continuer voilà, avec un monde fini. Extropie, ça veut dire aussi, ici, vous allez voir qu'on peut donc dépasser en quelque sorte cette contradiction apparente, cette contradiction écologique. Eh bien là. La loi de l'extropie propose, on va le voir, une autre interprétation de l'avenir. Alors, l'Extropy Institute, 1992, ce sont des lobbies, hein. Ce sont des lobbies qui sont des véritables pompes à fric, hein, qui permettent à des gens, alors qui ont un pied à l'université, un pied au congrès, etc., qui sont des conseillers, alors un peu comme Attali chez nous, hein, ça peut être des gens. Ray Kurzweil, Jeremy Rifkin, etc. Vous voyez, qui sont les conseillers du prince et ces instituts-là. Alors, l'autre institut, c'est l'association, le World Transhumanism Association, créé en 1998. Tout ça, c'est dans les années 90. Et qui sont des organismes de lobbying, qui font passer des idées, qui les vendent au Congrès, et qui derrière, effectivement, drainent des fonds publics, hein, le Congrès peut voter on va le voir, des milliards pour tout ça, et puis des fonds privés, c'est le rôle de l'université de la singularité, dont vous avez entendu parler, hein, qui n'a pas plus de singularité que d'université, mais qui propose des formations pour les futurs, comment dire, gouvernants du monde entier, chinois, indiens, etc. Des formations extrêmement chères pour leur dire toute la semaine que ce sont les, voilà, c'est eux qui vont régner sur le monde demain grâce à la convergence NBIC qu'on va maintenant détailler. Bon, il existe une grande diversité de discours transhumanistes. Gabriel Dort, que vous avez peut-être rencontré déjà, non, dans les séminaires, surtout celui d'Émilie Gaillard, c'est un jeune sociologue suisse. Il vient de terminer sa thèse avec Dominique Bourg et Bernadette Binceau de Vincent. Il l'a mis en ligne, hein, donc elle est publiée. C'est une thèse de sociologie du discours transhumaniste. Hein, donc vous avez une analyse, on va dire, un peu fine de qui, quoi, quand, comment. Enfin voilà, c'est intéressant, hein, j'allais dire, de faire un peu la part entre le discours et l'action, afin de voir qui fait quoi là-dedans. Et donc, bon, il montre très bien que c'est un ensemble hétérogène, complexe. Avec quelques tendances fortes dont je vous ai rappelé les grandes lignes. Bon, la tendance vers le post-biologique, par exemple, hein, passer du corps à la machine, du cerveau au disque dur. Moi, je dirais que le fond de cette affaire, bon, parce que, encore une fois, ça peut prendre des formes un peu techniques différentes, hein. Il y a des transhumanistes qui ne sont pas d'accord entre eux, qui proposent certains d'améliorer le corps et d'autres de l'abandonner, par exemple. Hein, voilà, tout simplement. C'est quand même toujours cette idée d'obsolescence de l'homme, et on rejoint la pensée de Günther Anders, hein, donc je vous renvoie aux deux volumes de l'obsolescence de l'homme, hein, écrit dans les années 50. L'homme est dépassé. Et c'est ça qui est intéressant chez Anders, il dit au fond, bon, au lieu de faire œuvre de prudence, au sens de Jonas, au fond, hein, de prendre un peu de distance, qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on ait continué à accélérer? Hein, face à la technique, on connaît les enjeux de la technique, bien avant même Jacques Ellul, hein, Berdaïev, Junger, enfin tout un tas de gens avaient déjà, avant la Seconde Guerre mondiale, proposé, enfin, des approches critiques intéressantes. Et la réponse, disons, collective, en Occident, ça a été au contraire de chercher refuge par une certaine assimilation à la technique, hein, c'est-à-dire plutôt que de prendre une distance critique, de continuer à aller de l'avant et d'essayer au fond de s'assimiler complètement, tout à fait à la technique. Donc le contraire de la prudence. Hein. C'est ça la perspective méliorative dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Les Anglais appellent ça improvement. C'est plus l'amélioration de l'humain par les institutions de la culture, par la transmission, par l'université, par l'école, etc., le musée, enfin, tout ce qu'on a pu, disons, développer au XVIIIe siècle dans l'humanisme des Lumières, c'est l'amélioration, hein, du corps directement. Enfin, ça, c'est une rupture fondamentale, hein. Les dernières formes d'humanisme, se proposaient de transformer l'humain. Alors, ça peut être une transformation, du moi, hein, de la conscience, mais par les institutions, par l'extérieur. Hein, et là, on entend, et vous allez voir, hein, à quel point agir, au contraire, directement sur l'humain lui-même. Améliorer l'homme, donc voilà, c'est l'humanisme, les dernières formes d'humanisme. Bon, le dernier humanisme, c'était peut-être le progressisme, hein, de Condorcet, voilà, de gens comme ça, au 19e, qui n'était plus déjà l'humanisme des Lumières, hein, des théoriciens politiques des Lumières. C'était déjà un humanisme inscrit dans un siècle industriel, etc. Mais là, comment dire, il s'agissait d'un humanisme qui se donnait l'homme avec une majuscule pour objet, c'est-à-dire plutôt le genre humain. Hein, comment nous rendre plus humains, comment nous rendre plus justes, alors que là, il s'agit d'espérer d'améliorer l'espèce humaine. Vous voyez, humain, ça désigne deux choses. Hein. L'humanité, c'est à la fois le genre, ce qui fait de nous des humains et non pas des robots, des animaux ou des barbares. Et l'espèce biologique. Hein. Et donc on a cette espèce de glissement comme ça d'un humain anthropologique à un humain de plus en plus biologique. À vie nue, hein, au sens d'Hannah Arendt. Hein. Bon, ça rejoint, j'avais noté la très belle phrase de Michel Foucault sur la fin de l'homme. Hein. Vous vous souvenez, l'homme invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. Voilà. C'est-à-dire, c'est au fond, effectivement, dans les mots et les choses, en hein, 1966, c'est la fin de cet humanisme qui servait encore de rempart chez un Ellul, par exemple. Jacques Ellul, penseur de la technique, chrétien, vous voyez, avait encore cette posture, cet enracinement un peu substantiel, hein, dans le vieil humanisme, Guibaud, hein, Jean-Pierre Dupuis, voilà, des gens qui sont encore enracinés dans cette culture. La question que je vais soulever avec vous, c'est est-ce que cet humanisme n'est pas lui-même obsolète pour affronter la nature des nouveaux défis, des questions qui se posent? Voilà, ça, c'est une véritable question, et elle est évidemment redoutable. Alors maintenant, le transhumanisme, une histoire récente, j'ai quelques hypothèses à vous livrer, je pense aussi un peu fondamentales. Alors, le point de départ, je vous l'ai dit, bon, c'était l'Amérique des années 60, c'est même 59, Richard Feynman, F-E-Y-N-M-A-N. Richard Feynman est un être prodigieux, vous en trouvez d'ailleurs quelques vidéos des cours, c'est un physicien américain, un pédagogue hors pair, qui a révolutionné vraiment l'enseignement de la physique, hein, dans le monde entier. Et il avait écrit un petit papier en 59 qui disait « There is plenty of room at the bottom », il y a plein de place en bas. Et vous voyez, c'est un peu, il renverse la cosmogonie classique où, bon, à partir de la lunette de Ptolémée, où, voilà, on regarde le cosmos, vous voyez, d'une position humaine, mais on renverse avec le microscope. On peut renverser cette perspective et dire, au fond, entre l'atome et l'homme, ou l'homme et l'univers, vous voyez, il y a le même écart, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau monde qui devient immense, quand on réduit la perspective, à l'échelle donc nanométrique, hein, nano ça veut dire 10 puissance 9, c'est-à-dire un milliardième de mètre, c'est l'échelle atomique, c'est l'échelle, bon, éventuellement des molécules, c'est l'échelle du neurone, hein, et on le verra tout à l'heure, du bit, l'élément fondamental de la pensée binaire, hein, du code informatique. Et donc, il y a plein de places en bas. Il dit, voilà, il invite. Alors, on l'a pris pour un fêlé. Alors, d'ailleurs, c'est pas le seul moment de sa vie où ça lui est arrivé, parce qu'il était génial. Hein, mais il a entrevu quelque chose qui, évidemment, 20 ans plus tard, a été complètement admis, au point que, à partir des années 2000, si vous voulez avoir des crédits de recherche dans la physique, voilà, il faut mettre nano. Hein. Alors, c'est un tout petit peu passé de mode, mais depuis 20 ans, il fallait mettre du nano partout. Je discute avec des collègues des sciences dures, hein, pour être financé par l'Europe, par les institutions scientifiques. C'était la grande, grande mode. Il y a une espèce de fascination pour l'échelle nanométrique. Alors, il faut savoir qu'à l'échelle nanométrique, l'or est un cristal, par exemple, et que les matériaux que vous connaissez à l'échelle macroscopique, hein, tout ce qui nous entoure, les matières n'ont plus les mêmes propriétés. Hein, le nano-argent, par exemple, est un biocide. Un biocide très puissant qu'on peut mettre dans les vêtements, dans les chaussettes, etc. Mais ce sont aussi des petites particules qui, à l'échelle nanométrique, traversent toutes les barrières que vous pouvez imaginer, la peau évidemment, mais non seulement la peau, mais la barrière des cellules. Hein, ça peut entrer dans les cellules nerveuses, parce qu'à cette échelle nanométrique, vous voyez, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, on va le voir. C'est vraiment un monde absolument prodigieux, fascinant pour un scientifique et effrayant, je veux dire, pour qui s'intéresse un peu au danger des technosciences et voilà, à le type de monde en tout cas qui peut émerger de tout ça. Donc un grand projet, hein, d'ingénierie à l'échelle nanométrique né dans les années 90. Hein, donc Feynman 1959, à partir des années 90, on invente quelques technologies qui vont rendre l'utopie Feynman réalisable. Le microscope à effet tunnel, chez IBM, en 82. C'est fondamental. Ce microscope est c'est pas un microscope, évidemment, comme vous l'imaginez, avec des lentilles en verre et tout ça. C'est un outil qui permet, avec une pointe, d'aller saisir des atomes un par un et de les réorganiser. Donc d'agencer la matière, vous voyez, la matière c'est quand même le fruit de la création, qu'on la considère comme étant une métaphysique ou une évolution de l'origine de l'univers, sur lesquelles d'ailleurs on n'a pas beaucoup d'idées, mais enfin, toujours est-il que voilà, la matière n'avait jamais été à ce point agencée par l'homme. Hein. Donc avec un microscope à effet tunnel, on peut créer des formes, notamment on l'a fait avec du carbone, des formes qu'on ne connaît pas, alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais qu'on n'a jamais observées dans l'univers. Donc des nouvelles molécules, c'est un grand jeu de Lego, voilà. C'est un grand jeu de Lego, on peut recombiner, hein, la matière dans sa dimension la plus intime, enfin celle qu'on arrive en tout cas à connaître et à maîtriser, parce qu'on peut descendre bien en deçà au niveau des particules élémentaires, etc. Mais bon, toujours est-il que là, c'est opératoire. Hein, on a découvert comme ça les fulrènes. Les fulrènes, ce sont des, c'est la structure du carbone en ballon de football. Vous voyez la maille d'un ballon de football, hein, avec des sortes de polygones comme ça. Voilà. On fait aussi des nanotubes de carbone. Hein, alors, et un nanotube de carbone, c'est 10 fois plus résistant que l'acier et 10 fois plus léger. Donc si on arrivait à le produire de manière industrielle, un matériau 10 fois plus résistant, 10 fois plus résistant que l'acier et 10 fois plus léger, vous imaginez, on peut jeter des ponts à travers les océans. Hein, ou du moins entre les continents. Enfin, vous voyez, ça peut, on peut créer des tours de 10 km de haut. Ça fait partie des promesses utopiques, hein, techno-utopiques, qui sont contenues dans cette idée, dans cette technologie-là. Et ce serait en plus extrêmement bon marché, puisque constitué de carbone, ben, du carbone, il y en a absolument partout, là où il y a du végétal en particulier, dans la nature. Hein. Donc voilà, une promesse utopique tout à fait intéressante. L'ordinateur quantique aussi, en 2002. Quantique au sens où il est basé sur la superposition, hein, mais cette superposition d'états permettrait théoriquement de produire des calculateurs hyper puissants. Et troisième dimension utopique un peu radicale, mais elle est très séduisante sur le papier, la possibilité d'enrichir le code génétique. Là aussi, le code génétique, c'est un certain nombre de paires de bases, hein, vous connaissez, qui forment l'ADN, donc le grand message de la vie. Et cet alphabet du vivant pourrait être enrichi, hein, par des formes nouvelles qui n'existent pas dans la nature, mais sur le papier, hein, donc comme potentiellement là. Et il y a, dans ce qu'on appelle la biologie de synthèse, alors aujourd'hui on arrive à créer des organismes artificiels, notamment on a créé un virus à partir d'éléments, hein, de virus, mais on a créé des formes de vie en laboratoire qui n'existaient pas du tout, qui ne sont pas donc de la reproduction, mais de la production, de la fabrication. Et là, on aurait cette idée même d'ajouter des bases nouvelles pour enrichir la grammaire, au fond, voilà, du message. Alors qu'est-ce que ça produirait? On ne sait pas. C'est une vaste question, ça n'a pas été encore réalisé, mais voilà, c'est potentiellement là, à partir du moment où on fait converger, et cette idée de méta-convergence est hyper importante, hein, parce que je pense que le vrai risque aujourd'hui vient de là, la convergence des champs disciplinaires dans le paradigme nanométrique ouvre des possibilités qu'on n'avait absolument pas imaginées auparavant. Donc les nanotech se présentent comme étant capables de dépasser, hein, les obstacles actuels au développement industriel. Épuisement des ressources naturelles, hein, parce qu'avec cette logique-là, on est encore une fois, hein, dans une sorte d'utopie radieuse, idéale. On pourrait recombiner, il n'y a plus de déchets par exemple. Hein, on peut recombiner à l'infini la matière. Il n'y a pas de déchets, pourquoi? Parce que si on fabrique des matières en agençant des atomes un par un, à chaque fois qu'on fabrique quelque chose, on utilise et plus de matière même que l'objet même pour fabriquer. Il y a, je ne sais plus, pour une puce, pour un téléphone portable, combien il y a de milliers de litres d'eau, vous voyez ce que je veux dire? Et des déchets, et à chaque fois qu'on creuse la matière, à chaque fois qu'on vide, à chaque fois qu'on fraise, etc., on crée du déchet. On ponce, voilà. Là, on aurait plus problème de production de déchets, puisqu'on produirait une matière parfaite, d'une certaine manière, ou un objet parfait du premier coup. Alors, indifféremment d'ailleurs, du vivant. C'est la logique qu'on retrouve dans les imprimantes 3D, par exemple. Elle est déjà un peu en pratique. L'imprimante 3D, elle ne creuse pas, elle n'évite pas, elle ne produit pas de déchets. Elle gère, elle optimise d'une certaine manière toute la matière dont elle dispose. Et on peut imaginer aujourd'hui imprimer des tissus, imprimer du vivant, hein, et peut-être demain des organes, avec des imprimantes 3D, programmées pour faire différentes parties des veines, des artères, des muscles, de la peau, etc., qui pourront. On aurait plus ce problème aussi de l'énergie, puisqu'à l'échelle nanométrique, on dépenserait infiniment moins d'énergie que dans les macrosystèmes, vous voyez, pour creuser les mines, les minerais, le charbon, l'acier. Enfin, vous voyez, c'est un peu le mouvement, hein, comment dire, de l'efficience technique, hein, qui continue depuis le 19e, mais là, on arriverait à une sorte de monde un peu propre, et on va le voir, même l'énergie pourrait être elle-même produite par des nanomachines, hein, introduites dans la matière, dans le corps, etc. Donc on serait à l'économie, hein, on serait à l'optimisation, plus de fossiles, plus de minerais, et plus de problèmes potentiellement de pollution. Alors c'est pas évidemment très évident tout ça, mais c'est le discours qui est produit. C'est-à-dire que quand technoprophètes ont vendu le projet NBIC au Congrès américain, c'est ça qu'ils ont tenu comme argument. C'est-à-dire avoir un impact positif sur la vie, je disais tout à l'heure. Alors maintenant, on va détailler les trois niveaux rapidement, pour aller un peu plus dans le détail des possibilités techniques. Info, bio et cogno. Hein. 1959, c'était aussi donc le premier circuit intégré. Et la loi de Moore se vérifie. Donc tous les 18 mois, je vous l'ai dit, le nombre de transistors installés sur une puce a doublé. Hein. Donc on est passé de 1 transistor à 100 millions en 40 ans. Et ça continue d'augmenter. Mais on atteint les limites physiques du silicium. Alors ça, c'est un peu discuté, mais il semblerait qu'aujourd'hui, quand même, pour que comment dire, se poursuive, il faut quand même changer le support. Hein, parce que le silicium, bon, ça s'appelle la lithographie, on grave littéralement dans la silice. La solution, ce serait de passer à ce qu'on appelle le biocomputing, hein, c'est-à-dire d'utiliser maintenant du vivant. Le biocomputing, hein, donc le cerveau fonctionne comme une machine, et au fond, puisqu'il fonctionne si bien, c'est la machine la plus complexe de l'univers, pourquoi s'embêter à créer une machine à côté, plutôt que d'essayer de tirer parti, hein, donc on pourrait imaginer des réseaux de neurones, vous voyez, liés à, voilà. Et c'est là-dessus qu'ils travaillent. Je rentre pas dans le détail parce qu'encore une fois, je sais pas aller dans le fond, puis ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps de le faire. Ce serait passionnant d'aller observer de près ce que font les instituts de recherche là-dedans, hein, mais le biocomputing, c'est cette idée, retenez, parce que peut-être que vous connaîtrez ça, ou vos enfants, voilà, des ordinateurs qui utiliseront en partie au moins du vivant pour augmenter la puissance de calcul. Plus tard aussi, on pense utiliser des électrons, voire des photons, qui pourraient être capables de stocker, hein, une mémoire et de transmettre l'information. Alors, cette question de l'information, elle est fondamentale. Alors, on est dans la société, hein, du big data aujourd'hui, vous connaissez, mais ce qui se prépare, c'est exponentiel. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus puissant que tout ça. Alors, le principal changement, c'est peut-être justement que le concept d'information a changé en passant de la physique, on pourrait dire classique, à la physique quantique, hein, à l'échelle atomique. Et en particulier cette idée, vous savez, dans la naissance de l'informatique, on a créé ce langage binaire avec le bit, c'est 0-1, hein, c'est une suite de 0 et de 1, vous avez sûrement vu déjà ces langages chiffrés, et là, on n'aurait plus à choisir entre une alternative, mais on pourrait superposer en quelque sorte les deux états. Et à ce moment-là, augmenter les performances. Bon, si vous regardez aujourd'hui Science et Vie, par exemple, un magazine très intéressant si on s'intéresse aux utopies techniques, Science et Vie, il est question de manière un peu récurrente, hein, de ce type de nouvel ordinateur qui est promis pour le marché, hein, dans les années 2030. Enfin, vous voyez, c'est demain, vraiment demain matin. Et donc, on prétend aujourd'hui pouvoir augmenter de 10 puissance 9, hein, les capacités de calcul d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'à volume égal, dans vos machines, vous auriez 1 milliard de fois la possibilité de calcul qu'il y a aujourd'hui. Si on avait dit au chef de contrôle vous voyez, de la NASA, qui était dans la plus grande salle de contrôle du monde, hein, quand même à l'époque, pour le vol habité sur la Lune, qu'un collégien 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard aurait un ordinateur, vous voyez, qui contient, enfin un peu plus de 30 ans même, mais quand même, hein, il aurait dit, vous rigolez, vous plaisantez, ben voilà. Là, l'utopie technique, voilà, envisage aujourd'hui une augmentation. Alors 10 puissance 9, c'est intéressant parce que c'est un chiffre qu'on retrouve de manière assez régulière dès qu'il s'agit de transhumanisme. C'est toujours, alors c'est 1 milliard de fois plus petit, mais c'est aussi un projet qui s'intéresse par exemple à 1 milliard d'humains. Le transhumanisme, c'est pour les associations dont j'ai parlé, il y a 1 milliard d'humains qui méritent, qui sont éligibles ou solvables, comme on veut, ce serait plutôt solvable. Mais voilà, le projet transhumaniste au final, porté par les associations, c'est pour 1 milliard. Moi, je dirais, c'est la part solvable de l'humanité, dans une vision libertarienne, néo-néolibérale. Donc augmentation, voilà, dans tous les domaines, hein, des performances, une toile mondiale hyper dense. Alors la 5G qui arrive là dans quelques années, sur laquelle travaille, elle vous en a parlé, là, John. La 5G, hein, c'est 1 000 fois le débit actuel de l'information entre les ordinateurs et les objets. C'est-à-dire qu'on va fabriquer ce qu'on appelle une société ubique. Alors une toile hyper dense et très peu consommatrice d'énergie. Là-dessus, je demande à voir parce que pour l'instant L'Internet, c'est 10% de la dépense d'énergie mondiale. Les grandes baies de stockage, hein, vous connaissez là, qui gèrent Facebook, Amazon et tout, c'est à chaque fois, c'est une ville entière. C'est-à-dire qu'il faut à peu près l'équivalent d'un réacteur nucléaire pour une grande ville. Et voilà, ces grands centres aujourd'hui arrivent à consommer à eux seuls, en dépensant d'ailleurs des quantités d'énergie, en libérant des calories infinies. Donc voilà, tout, enfin bon, Michel Lobré, ma collègue, a un peu écrit, hein, sur l'envers du le mythe de l'Internet propre, etc. Alors, ces capacités de calcul énormes dans des tout petits volumes, ça veut dire que dans chaque objet, on va mettre un calculateur qui pourra produire, échanger, recevoir de l'information. C'est un peu déjà le cas des étiquettes, hein, dites intelligentes, vous savez, etc. Mais donc, imaginez un monde avec peut-être même nos organes, vous voyez, sur lesquels on pourrait greffer des puces absolument discrètes qui pourraient donner en permanence, alors pourquoi pas, hein, voilà, votre taux de glycémie, le rythme du cœur. On n'aurait plus besoin, c'est-à-dire de même de passer par, vous voyez, cet objet extérieur qui est grossier, quoi, qui est encore très moderne, et connecté, etc. Donc là, on aurait un système d'ubiquité, hein, c'est-à-dire que l'informatique serait partout. Chaque arbre peut avoir sa puce avec son niveau de stress hydrique. En période de changement climatique, c'est pas bête. Hein, j'ai un ami qui a une start-up à Caen qui travaille là-dessus. Il fait du maïs connecté et il travaille sur les... Il met des capteurs, des micros, pas nano, mais micro-capteurs, sur des plants, notamment à La Réunion, d'où il est originaire, et ça permet effectivement une gestion optimale de l'eau, etc., en situation de pénurie. Fin. Ben oui, la recherche d'efficience et de performance, elle va être d'autant plus nécessaire que le monde va devenir un peu chaotique avec le changement climatique, etc. Donc tout ça est lié, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est la réponse prométhéenne, encore une fois, au problème que la science et la technique ont finalement déjà engendré, quoi. Mais avec des ruptures, c'est là-dessus que je veux insister, quoi. Alors les nano-bio, maintenant, les biotechnologies et le biopouvoir, de fait, hein. Là aussi, on a une vision du vivant un peu renouvelée. C'est-à-dire que jusqu'à une période très récente, le vivant, et c'est la raison pour laquelle, je vous disais, on n'a pas touché au corps. Il y avait quand même une sacralisation anthropologique qui a continué à fonctionner, y compris tardivement dans la modernité, je sais pas, dans le nazisme, l'acharnement sur le corps. Hein, enfin, non, je pense à toutes les grandes utopies qui ont manqué d'une théorie du sujet, le nazisme et le stalinisme, entre autres, se sont acharnés sur les corps. Hein, dans les camps, il n'y a pas eu de camps. En Pologne, hein, il y a eu tous les goulags aussi, enfin, le camp fait partie quand même de l'expérience politique moderne, dirait Agamben. Cet acharnement sur le corps posait encore la question de la sacralité, et dans les pratiques médicales encore aujourd'hui, vous voyez, ça fait obstacle d'une certaine manière, même si les comités d'éthique, Testard nous l'a montré, hein, ne résistent plus beaucoup, mais les portes sont en train de s'ouvrir. Voilà, et alors cette idée du vivant renouvelé, c'est quoi? C'est que la cellule... si on désacralise, hein, le vivant, la cellule devient une nano-usine. Elle est dotée de caractéristiques, de performances. Évidemment, le vivant se décompose en unités élémentaires, donc la cellule ou le neurone, hein, dans le cerveau. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, le projet NBIC, hein, Nano Bio Info Cogno, est aussi appelé par les détracteurs plutôt BANG, c'est-à-dire Bit Atom Neurone Gen. Les entités élémentaires manipulables. Alors, ce qui intéresse dans le vivant, ce qui intéresse la technoscience, c'est qu'il est capable d'autoréplication. Hein, l'ADN se duplique avec l'ARN messager, le vivant se reproduit, hein, gratuitement. En plus, bon, comme disait, je ne sais plus quel agronome, hein, n'importe quel ministère de l'Agriculture aurait d'abord dû s'appeler ministère de la Gratuité, puisque quand même, c'est fabuleux de pouvoir, semer, récolter, replanter une partie de la récolte, consommer le reste, et ça fonctionne depuis le néolithique, comme ça. Et cette capacité d'autoréplication, elle est aussi doublée d'une capacité assez incroyable d'autocomplexification. Hein, ce qui a fait que dans les années d'après-guerre, où cette convergence se met en place, j'ai cité Feynman, mais il y avait aussi Van Neumann, le grand mathématicien, Turing, les gens qui ont inventé l'informatique, mais qui ont été en lien avec ceux qui se sont aussi intéressés à l'évolution du vivant, à la complexité dans la biologie, la cybernétique, Wiener, Norbert Wiener. Hein. Voilà, donc tout ce dont je parle là, c'est en gestation, disons, depuis la Seconde Guerre mondiale. L'autocomplexification passionne évidemment les scientifiques. Hein, c'est pour ça qu'on va aller chercher aujourd'hui, au XXIe siècle, du côté du vivant. Le XXe siècle, c'était le siècle de la physique. Hein, ça a été vraiment le siècle de la physique, avec Bohr, Planck, Einstein, etc., la découverte de la quantique, enfin, ça a été fondamental. Mais je pense que le XXIe va beaucoup être plus celui des sciences du vivant. Au XXe siècle, le vivant, c'était les lois de Mendel, puis on continuait à accompagner. Bon, l'agriculture, c'est quoi? C'est un geste d'accompagnement des lois de la nature. Hein. Je veux dire, voilà, on sélectionne les animaux, mais on utilise les lois de la nature. Hein. Alors que là, on les transforme. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. C'est la grande rupture. Hein. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que là, on est quand même en pleine rupture par rapport à tout ce qui s'est fait avant, même si on pourrait considérer que la science qui moderne et qui prévaut a été la condition nécessaire pour que tout ça advienne. Mais ce qui est en train d'advenir, si vous voulez, c'est la même rupture qu'il y a entre la science moderne et la science ancienne, vous voyez, hein, c'est-à-dire l'opérativité, etc. Donc, par exemple, des virus ou de l'ADN peuvent jouer aujourd'hui le rôle on pourrait dire, technème, d'éléments de base, c'est-à-dire une roue, un fil, un interrupteur. Hein. On peut utiliser les éléments de base de la vie pour leur faire jouer des rôles exactement comme on bricole, vous voyez, sur une construction électronique, hein, avec des composants comme ça, voilà, qui ont tous une fonction. Le tout peut être alimenté par des moteurs nano, hein, électrochimiques. Donc le projet nano-biotechnologique, hein, entend rivaliser avec la nature. Et le premier peut-être qui a posé les bases de cette idée, après Feynman en 1959, c'est Eric Drexler, Drexler, qui est un étudiant du MIT, hein, à Boston, et qui avait publié en 1986 un texte américain dont m'avait parlé Dupuis, hein, quand je l'ai rencontré, Engine of Creations, hein, un étudiant assez visionnaire qui avait imaginé des nanomachines, hein, dès la fin des années 80, des nanomachines, et il imagine deux démarches, alors dans des textes qui sont à la fois scientifiques et utopiques, hein, un peu visionnaires, d'extraire du vivant les nanomachines qu'il a su engendrer et les faire travailler pour nous. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ADN, etc., existe en nous. Ce sont des nanomachines qui fonctionnent. On pourrait en isoler les fonctions et les extraire pour les faire travailler dans des assemblages. Le virus, d'ailleurs, est intéressant parce que c'est pas à la différence de la bactérie, le virus est aux frontières du vivant. C'est plus proche, nous disent les biologistes, du programme informatique. Hein, que du vivant comme la bactérie, qui est un organisme, là, pour le coup, monocellulaire. Hein, donc, voilà, on peut utiliser aujourd'hui des virus en médecine, mais bon, voilà, il est question d'aller évidemment beaucoup plus loin dans cet usinage du vivant et leur confier, par exemple, la capacité d'assembler des nanocircuits. Et l'horizon, ce serait ici de créer l'ordinateur biologique avec ça. Hein, donc, voilà, c'est Eric Drexler. Et la deuxième idée qu'il a, un peu comme ça, fumeuse, c'est de réaliser des fonctions biologiques en associant les savoir-faire du génie génétique et la nanofabrication, un petit peu sur le modèle du pacemaker dont je parlais tout à l'heure, mais le pacemaker, il est macro, c'est-à-dire d'utiliser des nanomachines. Alors, et là, on est vraiment dans la convergence. Hein. Dès les années 80, vous voyez, on imagine d'associer le neurone et un élément inerte en silicium ou autre, pour par exemple envoyer ces machines guérir des cancers à l'endroit même où se produit, vous voyez, la disruption. Vous voyez, pour traiter un cancer, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On traite hein, par chimiothérapie ou rayonnement. Alors ça va avec la radiothérapie, on cible, hein, mais là on pourrait aller, c'est cette idée, vous voyez, d'aller à l'économie de moyens, à l'économie d'énergie plus efficace directement là où les choses se font. Et la rupture avec les biotechnologies, c'est la suivante, c'est que les biotech, telles qu'on les conçoit aujourd'hui, les OGM, etc., utilisent les produits de l'évolution. On est toujours, et c'est ce qu'a montré Raphaël Larrère, hein, le mari de Catherine Larrère, qui est la grande philosophe de la nature. Raphaël Larrère était chercheur sociologue à l'INRA, il a beaucoup réfléchi sur les questions du vivant. Les biotechnologies n'ont jamais fait que s'inscrire d'une certaine manière dans la continuité de l'évolution des espèces et de la sélection des espèces, qui a commencé au néolithique avec les premiers éleveurs. Là, avec ce dont je viens de vous parler, il me semble qu'on est dans autre chose. Hein. On est dans une rupture radicale, et le domaine de la biologie de synthèse, hein, qui est en train d'émerger, c'est-à-dire l'idée de fabriquer ex nihilo des nouvelles formes de vie, des nouveaux organismes, et de les combiner, pourquoi pas, avec des nanomachines. Vous voyez, c'est un champ complètement vierge, hein, complètement nouveau, et dans lequel, encore une fois, on investit beaucoup. Donc l'idée, c'est refaire le monde en mieux. Voilà, le monde de la création était peut-être pas si mal, mais pour les transhumanistes, il n'est pas assez bien, il est imparfait, nous sommes mortels. Voilà. Hein, donc le faire en mieux, c'est utiliser toutes les possibilités de la science, donc de la convergence, la métaconvergence NBIC. Alors le cogno, très important. Je vous l'ai dit, c'est peut-être même le plus important du calcul et de la conscience. Alors, le paradigme qui prévaut dans cette troisième sphère, on va dire, des nanotechnologies, c'est que tout est machine informationnelle. Hein, tout est machine informationnelle, c'est-à-dire algorithme. Tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parti de l'après-guerre, de l'apport de gens qui ont réfléchi. Bon, je pense à John von Neumann, le mathématicien qui s'est intéressé aux sciences de la complexité, aux formes d'auto-organisation. Ce qui est nouveau, voilà, dans le paradigme qui est en train de se mettre en place, c'est que cette ingénierie de la complexité qui découle, encore une fois, de vision du monde, de propositions littéralement philosophiques en science, hein, des années 50-60, c'est qu'elle part du bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle explore d'abord les fonctionnalités. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on va voir ce qu'on peut faire avec un brin d'ADN, ou enfin avec une molécule d'ADN, avec un virus, avec, vous voyez, on regarde de manière très empirique comment fonctionnent au fond déjà j'allais dire les fruits de la création, hein, de l'évolution. Et à partir de là, on imagine une utilité à ces éléments en les combinant, en les recombinant entre eux. Donc on n'est pas du tout dans la vision classique de l'ingénieur qui repose sur la programmation. Hein, l'ingénieur, dans l'héritage, je vais dire, du 19e siècle, c'est celui qui planifie, qui programme, qui voit en avant, et qui, comme l'artisan qui a un dessin en tête, un but, se dote des moyens de parvenir à une fin. D'accord? Là, on n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on part des moyens et on imagine une fin à partir de ce qu'on peut considérer, vous voyez, comme des moyens. C'est une sorte de renversement, là aussi, paradigmatique. L'ingénieur classique, voilà, c'est top-down, il part du projet. Hein, il a un projet, ensuite il construit un plan. Là, on ne comprend pas la propriété des objets. Par exemple, les algorithmes très performants qui se sont auto-sélectionnés. On peut reproduire dans les algorithmes aujourd'hui, vous savez peut-être, hein, la logique de l'évolution du vivant, c'est-à-dire qu'on fait travailler des programmes, etc., qui s'auto-sélectionnent pour arriver au plus performant à partir d'un certain nombre de critères prédéterminés. Mais ensuite, il y a une sorte d'intelligence qui fonctionne et qui aboutit à un résultat indéterminé, non prévisible. Et qu'on ne connaît pas. Et on le découvre, et au fond, bon, voilà, on essaie de continuer à bâtir avec ça. C'est comme ça que la science se fait aujourd'hui, hein. Voilà. Donc on a un retournement, vous voyez, de la logique de la production scientifique, qui repose sur tout ce qui a fait, comment dire, tout ce qui a hanté peut-être les prédécesseurs, la non-maîtrise. Ça repose sur le principe de non-maîtrise, et ça veut dire qu'en matière de gestion des risques, je viens vers les Grignins, gouvernance des risques et de l'environnement, vous voyez, il y a quelque chose de problématique. Le colloque qu'on organise au Canada en mai, qui est ouvert, hein, avec Louise Andelac, va aussi poser ces questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans l'expérimentation scientifique, on marche à l'aveugle. On est dans un monde totalement inconnu, d'apprentis sorciers. Alors, c'est marrant parce que enfin, c'est marrant, c'est pas très drôle. La logique transhumaniste, par rapport au corps, rejoint, si vous voulez, le projet de géo-ingénierie à l'échelle environnementale et planétaire. Hein, c'est-à-dire considérer que Gaïa, c'est un grand corps malade, mais c'est vrai en plus, et on va se pencher à son chevet et tenter toutes sortes de choses, modifier l'albédo des océans, la composition chimique des terres, des mers, envoyer des trucs dans le ciel pour renvoyer les rayons cosmiques. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Et il y a des expérimentations qui ont eu lieu, hein, sauvages, non déclarées pour certaines. Mais qui me donne à penser qu'on va de plus en plus se retrouver dans une sorte de monde comme ça, expérimental. Ça a commencé au XXe siècle, hein, la bombe atomique, les 3000 essais en plein air, ça a été ça aussi. C'était déjà là. Enfin, la bombe, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je mets un marqueur quand même fort à ce moment-là. Je pense qu'il y a un point de bascule avec Hiroshima, Nagasaki et la découverte des camps. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer ma première partie. J'en fais une analyse rapide, hein, de tout ça. Le paradigme NBIC, là, dont j'ai parlé, est au cœur aujourd'hui de la compétition industrielle. Elle a montré, hein, dans ses travaux, Hélène Janin, vous vous souvenez, hein, elle a rappelé les grands rapports. L'Europe, évidemment, ne voulait pas être à la traîne, hein, donc on a évidemment emboîté le pas. Tout ça, évidemment, va renforcer les pouvoirs politique, hein, de contrôle des États et la puissance économique de ceux qui ont déjà les moyens. Hein, donc augmenter aussi les inégalités d'accès, hein, puisque nous sommes maintenant l'âge de l'accès, dirait Rifkin, hein, une des grandes caractéristiques maintenant qui, enfin, une marque de distinction n'est plus seulement la richesse ou le fait de posséder, hein, la richesse entre les riches et les pauvres, mais de pouvoir accéder à. Si vous regardez les migrants, leur premier souci, c'est d'avoir un téléphone portable et une carte à puce, quitte à garder le ventre vide un peu plus longtemps. Alors, le rapport de la National Science Foundation, dont j'ai parlé, hein, donc c'est Converging Technologies for Improving Human Performance, hein, donc la technologie convergente pour augmenter les performances humaines. Il promet. Donc ceci, je reprends les grands éléments du rapport, l'unification des sciences et des techniques. Alors ce rapport, il prenait aussi bon, le bien-être, hein, dans une société hédoniste de l'hyper-individu, la paix mondiale, hein, parce que la question de la paix est toujours fondamentale, ce serait aussi d'une certaine manière l'idée très simple de dire là, voilà, plus de communication et d'information vont créer plus de compréhension entre les peuples. C'est aussi crétin que ça, mais voilà, c'est ce qu'on a vendu littéralement à nos députés européens, aux congressistes américains. Enfin, c'est ça qui est dramatique, hein, c'est que ces idées extrêmement simples, tout comme Monsanto a revendiqué le fait de lutter contre la faim dans le monde, hein, grâce aux organismes génétiquement modifiés, plus de communication généralisée, hein, c'est-à-dire meilleure compréhension entre les différentes cultures, les langues, économie d'énergie, écologie, bref, vous voyez, la panacée. Et cette idée, alors qui est intéressante aussi parce qu'elle trouve son prolongement technique dans l'horizon du transhumanisme, c'est de considérer l'humanité comme un grand cerveau, une sorte de cerveau unique, de grande intelligence collective, comme on a Gaïa pour la Terre, hein, l'organisation du biologique est systémique, et on le sait aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas toucher à un élément du système sans qu'il y ait un feedback, une rétroaction. Voilà, même très local. Et l'idée de considérer l'humanité à l'échelle planétaire en se disant, voilà, alors c'est pas simplement le common knowledge, ce serait vraiment une sorte de conscience, voilà, d'intelligence collective que le transhumanisme se propose de rendre concrète, de traduire. Hein, c'est-à-dire quand on aura tous abandonné notre corps et quand on deviendra des consciences éthérées branchées sur un grand réseau, voilà. Voilà, un devenir machine, mais un devenir quand même conscience. C'est qu'à la fois, on va le voir, une sorte d'utopie nouvelle, parce que c'est ce qui est un peu ce qui nous manque aujourd'hui, voilà, après la fin des ismes, du communisme, des grandes utopies, qui est capable de produire, alors Daesh peut-être, etc., bon, mais voilà, produire de l'utopie, certes, mais une utopie. Et donc, d'un côté, on a des scientifiques qui tiennent un double discours, c'est-à-dire qui vendent les perspectives grandioses à des décideurs, parce que tout ça, c'est des crédits, mais infinis pour la recherche. Vous n'imaginez pas ce qui, voilà, c'est ce qui pleut, hein, comme crédit dès que vous mettez nano ou dès que vous travaillez là-dessus. Voyez? Donc, d'un côté, on vend de l'utopie et on vend du vent aussi d'une certaine manière. Et de l'autre, scientifiques ont tendance enfin, et les promoteurs de ce genre de technologie, à banaliser, au fond, les risques et les effets des technologies. Donc c'est assez complexe, parce que dans les Trente Glorieuses, on vendait le package, on disait, vous allez voir, l'avenir meilleur. De fait, on a eu de la croissance à deux chiffres, on a eu l'aménagement du territoire, une certaine égalisation des conditions, qui se disloque, hein, mais il y a eu une petite parenthèse heureuse dans une petite partie du monde pour un certain nombre de gens seulement. Il ne faut pas l'oublier, ce n'était pas glorieux pour tout le monde, mais ça a fonctionné en Occident. À quel prix, évidemment, ça, on va payer pour le savoir maintenant, dans les années qui viennent, à quel prix écologique, le coût du nucléaire, etc., etc. Mais voilà, dans les années de Gaulle, on vendait le Concorde, la conquête spatiale, l'autoroute, la révolution verte. Vous voyez, alors que là, on est dans une sorte de discours très, très ambigu où il faut cacher quelque chose, quoi. Et c'est la différence avec l'utopie des Trente Glorieuses, la dernière, enfin, phase un peu d'utopie techniciste, c'est qu'aujourd'hui, ces projets-là ne peuvent se faire d'une certaine manière que à demi-mot, en catimini, en contournant, voyez, les comités d'éthique, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez ambigu. Si on regarde les choses très clairement, ça ne l'est pas du tout. C'est un monde absolument horrible qui arrive. Mais il est vendu à la plupart des grands décideurs du monde. Je vous parlais de l'université de la singularité. Le problème, c'est ça. Vous voyez, des gens comme Elon Musk, comme voilà, ont l'oreille des puissants. Il y a des conseillers du prince, et toute cette économie, pour l'instant, peut-être tout ça pourra s'effondrer avec la crise de l'énergie et des matières premières. J'en sais rien. Mais pour l'instant, ce mouvement-là s'amplifie et surtout, il se construit sur un certain nombre de ruptures qui sont des points d'accélération par rapport à ce qu'était déjà le mouvement du progrès technique, c'est-à-dire du progrès pour la technique.